Vous écoutez
RMC 5-7, le Morning RMC.
Et aujourd'hui, on retrouve Thomas Becker pour le journal de 6h. Bonjour Thomas.
Bonjour Élise, bonjour Victor et bonjour à tous.
La sidération et le mystère à Rennes.
Un garçon de 12 ans retrouvé mort au bord d'un fleuve. Une serviette de bain mouillée très serrée autour de son cou. Une enquête pour meurtre est ouverte. Un épisode de chaleur précoce est remarquable selon Météo France. Le pays est sous un dôme de chaleur. L'Ouest est particulièrement touché. Vous entendrez les maires qui s'organisent. Sale journée pour les Français à Roland-Garros. Seulement 2 victoires en 12 match hier. Et on ira en fin de journal à San Antonio pour la NBA. Encore un match 5 étoiles de Victor Wembanyama.
Et donc ce drame, hier soir à Rennes, avec la mort d'un garçon de 12 ans.
Il a été retrouvé sur les rives de la Vilaine, sous un pont, avec une serviette de bain mouillée autour du cou. Le procureur de Rennes s'est rendu sur les lieux hier soir. Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans est ouverte par le parquet, Constance Bostoen.
Oui, c'est un pêcheur qui entend hier vers 17h sur les rives de la Vilaine les cris d'un enfant, rapporte une source policière. Il compose immédiatement le 17, mais à l'arrivée des secours, le garçon âgé de 12 ans est décédé. Les circonstances de sa mort sont encore très floues. L'enquête ne fait que débuter, mais l'élément qui intrigue les enquêteurs, c'est la présence de cette serviette de bain mouillée, nouée, très serrée autour du cou de la victime. Est-ce un acte volontaire ou est-ce un jeu qui a mal tourné entre adolescents? Le parquet de Rennes indique qu'une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et la police judiciaire de Rennes n'exclut pour l'heure aucune hypothèse.
Les précisions de Constance Bostoen du service police-justice de RMC. On va revenir dans un instant sur cet épisode de chaleur qui touche la France, mais ce week-end, il y a déjà eu des premiers drames. Près de Melun, en région parisienne, un jeune homme de 17 ans est mort alors qu'il se baignait dans une zone interdite près d'un barrage. Autre noyade dans le Bas-Rhin, une femme de 36 ans est décédée dans un étang où plusieurs centaines de personnes étaient venues se rafraîchir. Et alerte aux baïnes sur la côte atlantique, deux baigneurs sont morts hier, emportés au large à Lacanau et Lège-Cap-Ferret.
Il est 6h02 sur RMC et c'est un témoignage que l'on vous propose ce matin, un témoignage RMC, celui d'un proche du beau-père des deux enfants abandonnés au Portugal qui dresse un portrait troublant.
Oui, comme la mère des deux enfants abandonnés mardi dans une forêt au Portugal, son compagnon est en détention provisoire depuis samedi et en plus des accusations de mise en danger et d'abandon qui visent le couple, l'homme est soupçonné de coups et blessures aggravées. Caroline Renaud, vous avez échangé avec un des proches de ce beau-père qui peine à réaliser.
En voyant son nom dans la presse, Antoine n'y a pas cru.
Il avait toujours eu des délires, mais ça a souvent été des paroles. Là, ce qui est un petit peu troublant, c'est que là, il y a eu un passage à l'acte sur des enfants.
Il témoigne de manière anonyme par crainte de représailles. Il a coupé les ponts depuis plusieurs années avec cet homme, devenu trop complotiste, dit-il.
Il a eu des antécédents psychiatriques. Il me disait que j'étais une représentation luciférienne, que lui, il était immortel, qu'il rajeunissait. Là, il doit être dans un délire complètement paranoïaque, de possession.
Des théories que l'on retrouve en nombre sur ses réseaux sociaux. Cet ancien gendarme a aussi été condamné en 2010 à 9 mois de prison pour harcèlement et violence conjugale sur son ex-compagne.
Quand il a été condamné pour coups et blessures, il avait pris la fuite, il est parti en cavale en Amérique du Sud, ne laissez jamais sortir. J'espère qu'ils vont passer leur vie en prison, ces gens.
Et quand il évoque les deux enfants abandonnés, les yeux bandés en pleine forêt,
dans leur tête, ce qu'ils doivent être en train de vivre,
la voix d'Antoine s'étrangle.
Je pense qu'ils ne réalisent pas ce qui se passe, mais ils vont grandir avec le fait de réaliser petit à petit ce qu'ils ont vécu. C'est affreux.
J'espère qu'ils seront placés dans une bonne famille, conclut-il.
À l'étranger, toujours pas d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump semble jouer la montre.
Le temps joue en notre faveur, assure Donald Trump, qui demande à ses émissaires de ne pas se précipiter pour conclure un accord. Les États-Unis continuent de bloquer les exportations de pétrole des Iraniens. Le président américain espère toujours obtenir le déblocage du détroit d'Hormuz en échange de la levée du blocus. Toujours pas d'accord, mais une bonne nouvelle sur les marchés. Les cours du pétrole sont à la baisse, moins 5%. Le prix se stabilise à $98 le baril. Il était entre 115 et 120 au plus fort de la crise.
34 degrés à Tours, 36 à Nantes, 31 à Brest. Des records de chaleur battus ce dimanche dans l'ouest de la France.
Oui, 13 départements sont placés en vigilance jaune à partir de midi. Ces températures élevées vont se poursuivre toute la semaine. Une vague de chaleur qui frappe très tôt cette année. Alors les maires doivent prendre des mesures en urgence, Nicolas Ginestière.
À avril, on s'attendait à des températures élevées cet été.
On a déjà fait des réunions, hein. Sauf que la météo nous a rattrapés.
Philippe Bollot est maire de cette commune du Maine-et-Loire où le mercure devrait atteindre 34 degrés. Alors dès ce matin, ses équipes vont adapter leur emploi du temps.
Il faut éviter surtout de se retrouver avec des agents qui sont en extérieur durant les périodes les plus chaudes de la journée, plutôt qu'ils soient sur le terrain le matin et puis que l'après-midi se consacrent aux tâches qui peuvent être faites à l'intérieur.
Parmi ces tâches, assurer le suivi des personnes âgées. À La Ferté-Imbault, dans le Loir-et-Cher, également en vigilance jaune, la municipalité va relancer le dispositif. Julien Étourdeau, maire de la commune.
Notre site internet nous permet de faire un recensement des personnes vulnérables, de les appeler régulièrement par les agents communaux ou les élus, et si jamais ils ne répondent pas, d'envoyer un agent ou un élu à leur rencontre.
En plus de livraison d'eau et d'aide aux courses, l'édile, également pompier professionnel, veut mettre l'accent sur la prévention.
On remarque quand même une forte augmentation des demandes de secours sur les périodes de forte chaleur, donc c'est pour ça qu'il est important à tout niveau de rappeler les bons réflexes.
La commune se prépare également à ouvrir un espace climatisé pour accueillir les plus fragiles.
Nicolas Ginestière pour RMC.
Et vous nous appelez au 32-16 ce matin pour nous raconter, alors déjà, s'il fait chaud chez vous, déjà très tôt le matin. Tout à l'heure, justement, on avait Ibrahim, infirmier libéral. Lui aussi, il est dans la prévention, il est aussi dans l'action. Il fait ses tournées, il va voir plus souvent ses patients pour vérifier que tout va bien, notamment nos aînés. Alors dites-nous si vous bossez, vous aussi, ce matin, comment vous vous organisez, comment vous faites face à ces températures caniculaires et précoces. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp 06-12-424-424.
Il est 6h06 et c'était une journée noire hier pour les Français à Roland-Garros.
Oui, bilan de ce premier jour, 10 éliminations en 12 matchs. Quentin Alice et Valentin Royer sont sortis. Giovanni Empeci Pericard, lui, a été battu par Novak Djokovic, battu en 4-7. Le Français reste lucide sur sa performance. Écoutez.
Il n'y a pas de quoi être très très fier. Je suis dans la bataille pendant les deux premiers sets et j'ai une panne qui m'handicape bien pendant les deux derniers sets. Le but, c'est pas d'être fier d'avoir gagné un set et d'être allé loin dans le deuxième. Le plus important, c'est la victoire. Donc il y a beaucoup de déceptions.
Et 9 Français seront sur les courts aujourd'hui avant ce soir. Peut-être la dernière apparition de Gaël Monfils à Roland-Garros. Il sera opposé à Hugo Gaston. Tous les matchs sur la radio digitale 100% terre battue. Allez, on part à San Antonio, au Texas, où les Spurs reviennent à égalité. 2 matchs partout face à Oklahoma City en finale de conférence Ouest. Félix Gabory, vous êtes l'envoyé spécial de RMC à San Antonio. Et encore un match XXL pour Victor Wembanyama.
Oui, mené 2-1, les Spurs étaient dans l'obligation de gagner cette nuit pour ne pas hypothéquer leur chance de qualification. Et c'est évidemment Victor Wembanyama qui a été le héros de la soirée. Le Français a fait un match de patron pour mener son équipe vers une large victoire à domicile. Surmotivé dès le début de la rencontre, il termine meilleur marqueur du match avec 33 points et de nombreuses actions d'éclat. Il y a notamment eu cette exceptionnelle shoot au milieu de terrain à la dernière seconde de la première période. Un tir au buzzer qui a fait chavirer toute la salle dans une ambiance des très grands soirs. Wemby et les Spurs relancent donc complètement cette série et prouvent qu'ils ont les capacités à tenir tête aux champions en titre. Les deux équipes vont désormais retourner à Oklahoma City pour le match 5. Ça sera dans la nuit de mardi à mercredi. Les premiers à 4 victoires seront qualifiés pour la grande finale NBA.
Félix Gabory en direct ce matin de San Antonio.
Dans le journal de 6h présenté par Thomas Becker. Merci Thomas. Je vous rappelle qu'on joue ce matin. C'est le moment là tout de suite pour vous inscrire à notre jeu et tenter de remporter soit 10 000 euros, soit le pack complet de la Coupe du Monde. Il y a plein de choses dans le pack,
alors,
Victor.
Je l'ai vu ce pack.
Ah, c'est pas mal.
Pas mal. On vous résume tout. Vidéo projecteur, maillot des Bleus.
Pas mal.
Ballon officiel.
Incroyable.
Et même boîte Lego du trophée pour faire comme si vous l'aviez gagné. Vous venez sélectionner un joueur dans les listes des 26 et vous repartirez forcément avec un super cadeau. Vous envoyez dès maintenant liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez
5 minutes
pour jouer. Il est 6h08 et on ramasse les copies à 6h13.
Exactement. Bonne chance à tous. Allez, on va accueillir tout de suite Eric au 32-16. Eric qui nous appelle depuis le Tarn à Denat. Je ne sais pas si on prononce le T. Eric, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, on prononce le T.
Denat. Alors, il fait combien à Denat ce matin, Eric?
Alors, j'ai fait 20 degrés à 5h du matin.
Oh, wow.
Et voilà, à 23h30, on avait 18 degrés. Et hier, on a une journée très chaude, entre 34 à 11h et à 15h, on avait 36.
La nuit a été rude pour vous, Eric? Vous avez mal dormi?
Non, ça va. On ouvre la fenêtre la nuit, on ferme la journée tout, voler fenêtres et au moins, voilà, on reste au frais.
Et c'était quoi le programme du week-end? On en parlait tout à l'heure, il y a eu des courses avec malheureusement des drames, des gens qui ont fait des malaises, parfois des morts. Vous, dans le Tarn, vous avez un peu l'habitude, est-ce qu'on se préserve un peu plus? On sent les chaleurs arriver et du coup on ferme tout et on s'isole un peu au frais.
Bah, nous, on a eu entraînement au rugby, où j'entraîne des gamins de 8 à 10 ans au rugby. Bon, on les a mis un peu plus à l'ombre, on les a laissés boire beaucoup plus. Et voilà, on adapte les jeux à la chaleur.
Oui, c'est ça. Il y a une responsabilité aussi de faire attention aux enfants quand on est dans une association sportive et qui fait aussi chaud que ça. On fait pas n'importe quoi. En tout cas, on fait pas comme d'habitude.
Ah, c'est clair qu'on peut pas faire comme d'habitude, les envoyer courir et puis s'épuiser pour rien au soleil. Ça, c'est hors de question.
Vous bossez comme aujourd'hui, Eric?
Pas du plaisir. Oui, mais bon, je suis en télétravail, donc ça va.
Ah, bon, donc vous pouvez rester au frais. Il y a la clim ou le ventilateur à la maison?
Voilà, il y a le ventilateur, ça va très bien.
Ah, vous l'avez ressorti déjà?
Ah oui, il y a pas très longtemps, hein, parce que il y a une semaine on avait 5 degrés et là on arrive à 34. Bon, ouais.
C'est ça, on est passé de tout à rien d'un coup, quoi.
Voilà, c'est surtout ça. Nous ici le plus dur, parce que bon, les chaleurs on connaît, chaque année on a la même chose. Enfin. Pratiquement chaque année. Et mais voilà, c'est le plus dur, ça a été que c'est venu d'un seul coup. Voilà, bon, après on prend l'habitude.
Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RMC. Vous faites comme Eric, vous regardez le thermomètre, ensuite vous composez le 32-16 et on en parle tous ensemble en direct sur RMC. Je lis aussi vos messages au 06 12 424 424 sur WhatsApp.
Il est 6h11 et dans un instant, c'est le choix de la rédaction. Bonjour Pierre Bourgès.
Bonjour Élise, bonjour Victor, bonjour à tous.
Pierre, vous êtes le correspondant d'RMC à Bordeaux. Les jeunes plébiscitent les paiements fractionnés et vous nous dites ce matin qu'ils sont de plus en plus endettés.
La Banque de France indique que ces petits paiements en plusieurs fois sont de plus en plus présents dans les dossiers de surendettement des moins de 30 ans.
Et on va reparler de ce rapport de la Banque de France et votre enquête. C'est dans un instant sur RMC et RMC Story. A tout de suite.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h14 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
RMC, le choix de la rédaction.
Les jeunes sont de plus en plus endettés. C'est le choix de la rédaction ce matin. Bonjour Pierre Bourgès.
Bonjour Victor, bonjour Élise, bonjour à tous.
Pierre, vous êtes notre correspondant à Bordeaux. Le nombre de moins de 30 ans qui ont déposé un dossier de surendettement a augmenté de 36% en un an. C'est ce que nous dit ce matin la Banque de France.
Et dans la majorité des cas, Pierre, c'est à cause des crédits à la consommation, notamment les paiements fractionnés, ces paiements en plusieurs fois qui se multiplient pour tout type d'achat.
Exactement. Alors, on nous a tous déjà proposé, je pense ici, de payer des gros montants en plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut tout payer en deux, trois, voire quatre fois parfois, peu importe le prix. La preuve avec Malini. Elle est étudiante, elle a 20 ans et elle utilise le paiement fractionné, le paiement en plusieurs fois pour à peu près tout, ses heures de conduite, ses frais vétérinaires, une centaine d'euros répartis sur plusieurs mois à chaque fois, mais aussi pour des montants beaucoup plus bas. Elle m'a montré son application bancaire et effectivement, on peut y voir plusieurs achats de 15 à 30 euros toujours payés en trois fois. Écoutez.
C'est plutôt des vêtements, sinon c'est des trucs pour mon appartement et puis ou sinon c'est des cadeaux, quelque chose comme ça. Ça me donne la sensation d'être libre et de pouvoir dépenser plus dans d'autres choses. Je peux me le permettre sans non plus être à découvert ou quoi.
Alors, on se sent plus libre, Pierre, mais ça peut amener à des dérives, évidemment.
Ben oui, tout à fait, c'est ce que m'explique Dominique Lamouroux. Elle est responsable du service surendettement de l'association Famille en Gironde.
Quand on fait bien ses comptes, c'est pas mal parce que ça permet d'étaler et de gérer son budget. Mais c'est aussi un piège parce que ça permet de reprendre un autre fractionné. Et on voit des personnes qui ont plusieurs fractionnés sur leur relevé de compte. Et puis, au coût de 40 euros, 20 euros, 30 euros, petit à petit, ça peut créer... des difficultés de paiement.
C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à notre étudiante Malini en mars et en avril dernier. Elle s'est laissée surprendre par des prélèvements qu'elle avait totalement oubliés.
Quand j'ai dû payer des frais vétérinaires et les heures de conduite en même temps, c'était 70 euros plus 70 euros plus 70 euros, ça fait assez cher d'un coup. Et quand c'est arrivé, j'étais en négatif. J'ai été surprise parce que je m'en suis pas forcément rendu compte de tout ce que j'ai pu dépenser. La conséquence, c'est qu'on est obligé de se restreindre financièrement. J'ai fait très attention en tout cas à toutes mes dépenses, que ce soit en nourriture, l'électricité. J'étais en mode, je sais pas me gérer financièrement, ça arrive d'un coup alors que c'est ma faute.
Mais à cela s'ajoutent la plupart du temps des pénalités pour défaut de paiement, jusqu'à 8% du montant non débité selon les plateformes.
Alors Pierre, on s'en souvient, il y a encore quelques années, c'était surtout les banques, les magasins qui proposaient des paiements en plusieurs fois, souvent pour des gros montants. Mais aujourd'hui, les plateformes qui suggèrent ce moyen de paiement fractionné se multiplient.
Oui, elles contribuent à démocratiser ce phénomène. Leur nom, c'est Klarna, Alma, Floa ou encore PayPal, le plus connu, qui s'y est mis, lui aussi. Ces plateformes répondent à un nouveau mode de consommation, explique la sociologue Hélène Ducourant.
Parfois, il s'agit en fait de numériser des pratiques plus anciennes. Par exemple, payer en trois fois avec des chèques post-datés. Eh bien, cette pratique, elle n'est pas possible avec le web marchand. Donc, ça vient tout simplement remplacer ce genre de pratique. Ça vient parfois remplacer l'usage du découvert. On peut avoir des jeunes qui sont bancarisés auprès de néobanques, qui proposent pas, qui n'ont pas le droit de proposer des découverts. Et du coup, ça peut venir remplacer des outils qui sont plus connus pour d'autres générations.
Et alors, pour bénéficier de leurs services, eh bien, rien de plus simple. Il faut juste créer un compte, fournir ses numéros de carte bleue sur laquelle vous serez débité. Et puis, c'est tout finalement, puisque sur certaines de ces applications, il n'y a pas de vérification de votre solvabilité. C'est d'ailleurs tout le problème, puisque ces paiements fractionnés figurent de plus en plus dans les dossiers de surendettement de la Banque de France et la plupart du temps, ils viennent s'ajouter à d'autres dettes souvent bien plus lourdes et plus difficiles à effacer.
Merci beaucoup Pierre Bourgès pour votre enquête ce matin. Et vous, au 32-16, on veut vous entendre, que vous soyez jeune ou moins jeune. D'ailleurs, si vous êtes amateur de ces paiements fractionnés, si parfois vous vous êtes déjà fait surprendre, comme cette jeune femme que l'on a entendue dans l'enquête de Pierre Bourgès, vous êtes les bienvenus. On en parle ce matin aussi sur les astuces. On en parlait la semaine dernière avec Géraldine Demory. C'est un vrai sujet. Vous êtes les bienvenus au 32-16.
Il est 6h19 sur RMC.
Parce qu'il fait beau et chaud que je vous joue sur un air latino ce matin, mais bien parce que Laurie est de retour et ça a l'air de mettre en joie Aurèle Guech qui est déjà dans ce studio.
C'est ma meilleure amie.
Et voilà, la chanteuse, elle a mis le feu au Zénith de Paris hier et samedi. Son public était au rendez-vous d'ailleurs. Quand je resterai ta meilleure amie. Meilleure amie fidèle, finalement, hein, 20 ans après. Alors, le Zénith, c'était sa toute première scène à 16 ans. Aujourd'hui, elle en a 44. Et on peut dire qu'elle a reçu tout ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'amour, elle en a eu, c'est parfait. Un voyage dans le temps hein, pour la star des années 2000, aux plus de 8 millions de disques vendus. Et pour ses fans venus nombreux, forcément.
C'était le week-end.
Ah, waouh.
Elle est tellement fière.
Si vous n'êtes pas branché sur RMC Story, Canal 23 de la TNT, vous ne pouvez pas voir le sourire d'Élise Dangean à chaque fois qu'un son de Laurie part.
Je dois vous confesser que j'étais extrêmement fan, que Laurie a tapissé les murs de ma chambre et les oreilles de mes parents, je suis désolée d'ailleurs. Voilà, bon, Laurie qui continue sa tournée, elle sera à Grenoble tiens, jeudi et à Marseille vendredi.
Et c'est forcément là que vous croiserez donc Élise Dangean dans les prochains jours. Il est 6h20, presque l'heure de notre consultation gratuite avec le docteur Aurèle Guech. Ce sera juste après le rappel des trois grands titres de l'actu.
Et vous le savez, hein, il n'a jamais fait aussi chaud en mai. De nouveaux records de chaleur sont attendus ce lundi. 13 départements sont placés en vigilance jaune canicule. Une enquête pour meurtre ouverte à Rennes suite à la découverte d'un corps, celui d'un garçon de 12 ans retrouvé avec un linge, une serviette de bain mouillée serrée autour du cou. C'est un pêcheur alerté par des cris d'enfants qui a donné l'alerte. Et puis, pas de parade sur les Champs-Élysées pour les joueurs du Paris Saint-Germain en cas de sacre samedi en Ligue des Champions. La piste d'une célébration sur le Champ de Mars face à la Tour Eiffel est envisagée selon les informations d'RMC.
6h21 sur RMC, on ne va pas le Maurice gêné d'avoir chanté du Laurie il y a quelques instants. Le docteur Guech est là, bonjour docteur.
Bonjour, et bien comme Laurie, je vais faire mon retour après ce week-end et on va parler du beau temps, le beau temps qui a eu des conséquences dramatiques sur des sportifs. Est-ce que c'est sain et est-ce qu'on peut continuer à faire du sport quand il fait aussi chaud?
À tout de suite.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h24 sur RMC et RMC Story. Sortez la carte vitale.
RMC, consultation gratuite.
Bon, c'est un week-end prolongé dont on sort avec des fortes chaleurs. Et on a vu de nombreuses courses qui ont eu lieu partout en France. Des courses émaillées d'incidents, parfois très graves, des malaises notamment. Docteur Guech, est-ce qu'on peut voir venir le coup de chaud quand on fait du sport? Déjà, est-ce que c'est bien raisonnable de faire du sport par de telles températures?
Alors, c'est raisonnable. Alors, de faire du sport quand il y a beaucoup de température, oui, ça peut se faire, mais par contre, pas quand ça change brutalement. Parce qu'il faut bien comprendre que de base, notre corps va produire de la chaleur, et quand on fait du sport, il va en produire à peu près 20 fois plus. C'est-à-dire vraiment, il en produit des quantités énormes, et le problème, c'est que lorsqu'il est pas adapté, eh bien, vous allez avoir du mal à ressentir ces premiers signes de chaleur. Quels sont les premiers signes que vous allez avoir lorsque vous allez mal vivre, mal tolérer cette chaleur? C'est plutôt simple, c'est les signes à la déshydratation. D'abord, les crampes, les maux de tête, la fatigue, et puis la soif. Sauf que malheureusement, cette soif, elle peut venir en retard. Tout ça parce que simplement, notre corps n'est pas encore assez adapté. Il met un peu de temps.
Alors, quels sont les conseils, docteur? J'ai une course là qui va arriver dans pas longtemps. J'ai pris mon dossard il y a très longtemps auparavant. Je veux pas annuler. Comment je me prépare?
Eh ben, on a eu un peu d'expérience, que vous savez, avec les différentes compétitions qu'il y a eu dans des pays où il fait extrêmement chaud. Eh ben, on s'est réunis. Il y a eu des consensus qui ont été faits et on a observé qu'en fait, il fallait, pour adapter le corps humain aux fortes chaleurs, il fallait au moins 1 à 2 semaines d'entraînement dans des conditions de forte chaleur, avec des sessions de plus de 60 minutes pour arriver à s'adapter. Je m'explique. En gros, j'ai une séance, j'ai une course dans 2 semaines. Il va falloir que je fasse des exercices de faible intensité, minimum 60 minutes, minimum, on va dire, 3 fois par semaine pour arriver, eh bien, à être prêt le jour de la course. Parce que si vous faites ça du jour au lendemain, vous allez avoir le drame qu'il y a eu actuellement, c'est-à-dire le fait que le corps n'est pas préparé, la sudation ne s'est pas adaptée, vous n'êtes pas adapté. Et surtout, autre chose, ayez une gourde de réhydratation. Ça, c'est une chose qu'on oublie lorsqu'on est sur un exercice de plus d'une heure. Il est important de se réhydrater, et pas seulement avec de l'eau, avec des électrolytes. Comment je fais pour faire ça? Vous prenez une gourde d'eau, vous la remplissez à 50% d'eau, 50% de jus de pomme industriel. Pourquoi du jus de pomme industriel? Parce qu'il y a quoi dans le jus de pomme industriel, d'après vous?
Sucre.
Voilà. C'est du sucre. En gros, c'est une façon de mettre du sucre avec du goût. Donc là, vous mettez 50% d'eau, 50% de jus de pomme dans 1 litre et 1/4 de cuillère à café de sel. Vous avez ce qu'il faut. Là, vous avez 1 litre. Ça vous permet de vous entraîner 1 heure. Il va falloir renouveler ce litre facilement toutes les heures. Il faut commencer même à boire avant de vous entraîner. Donc, avant de s'entraîner, on boit son litre et on enchaîne pendant qu'on continue à s'entraîner. Et dès qu'on a les premiers signes de déshydratation, surtout, on n'hésite pas, on s'arrête, puisque pour rappel, la meilleure façon, eh bien, tout simplement de se refroidir, c'est soit de façon active en se recouvrant d'eau, ou alors déjà d'arrêter l'exercice physique, puisqu'on l'a dit, la principale cause qui va faire monter la température corporelle, c'est l'effort physique. Donc, si on arrête l'effort physique, on arrête d'augmenter la température corporelle. Et ensuite, sur place, généralement, il va y avoir des stations de rafraîchissement pour essayer de vous rafraîchir. La meilleure façon de se rafraîchir, ça reste l'immersion.
Merci, oula, docteur Aurel Gage. Tous les bons conseils pour faire du sport sous cette forte chaleur. Et si vous avez des questions à poser au docteur, vous envoyez vos questions sur le WhatsApp au 06 12 424 424.
Allez, c'est l'heure de jouer à 6h27 avec Mallory qui nous appelle depuis Tulens en Isère. Bonjour Mallory.
Oui, bonjour équipe.
Comment ça va ce matin? Il fait pas trop chaud chez vous en Isère, Mallory?
Ça commence,
ça y est. Hein.
Oui, les nuits sont encore un peu fraîches, donc ça va, mais en journée, ça commence à cogner, comme on dit chez nous.
Eh oui, bon, ça ne vous a pas empêché de rester attentif ce matin et de probablement trouver le mot caché. Est-ce que vous l'avez identifié?
Oui, je l'ai identifié, donc je pense à Morigénée.
Eh oui, félicitations.
Bravo.
Félicitations,
merci
Mallory.
Merci beaucoup.
Et c'est
merci.
Vous qui avez donc gagné ce matin. Votre montre Kelton, marque icône pop de l'horlogerie française, elle fête ses 70 ans. Félicitations,
c'est
Mallory.
C'est génial. Comme ça, je pourrais l'offrir à Fred, qui est mon meilleur ami. Il est fan de montres, il adore les montres.
Et vous gardez pas le cadeau pour vous, Mallory. Vous êtes vraiment sympa. Hein.
Oui, je vous remercie.
C'est un beau cadeau.
Merci beaucoup d'être fidèle à RMC, à notre écoute tous les matins. On vous envoie le cadeau, la très belle montre, et on vous souhaite une excellente journée. Faites attention à la chaleur, hydratez-vous, suivez les conseils d'Aurel Gage.
Pas de soucis, je vais bien écouter tes conseils.
Bonne journée, Mallory.
Également.
5-7, le Morning RMC.
L'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous.
Et à la une des drames avec cette chaleur.
Un quinquagénaire, vous allez voir, est mort hier en participant à une course à pied à Paris. 2 baigneurs sont morts emportés par les courants des Baïnes. Ça, c'était en Gironde, et un jeune de 17 ans lui s'est noyé dans la Seine. Week-end de la Pentecôte, très politique. Et on va en reparler, vous allez entendre le tacle de Dominique de Villepin à Gabriel Attal, qui a officialisé sa candidature à la présidentielle. Et on va revenir aussi sur les 15 mises en examen après la rixe jeudi dernier entre supporters de Paris et de Nice à la veille de la finale de Coupe de France.
Et avec la chaleur, le ministère des Sports appelle à la plus grande vigilance dans la pratique sportive.
Oui, puisque de nombreux événements sportifs, comme des courses à pied, étaient maintenus hier malgré les 30 degrés dépassés dans certaines régions. Et alors, quand on dresse le bilan ce matin, Inès Zegloul en direct sur RMC, on s'aperçoit que ça a tourné à l'hécatombe avec un mort donc à Paris.
Oui, c'était l'un des 1650 dossards sur la ligne de départ d'un 10 km organisé dans le 20e arrondissement. 118 mètres de dénivelé, plus de 25 degrés au moment de s'élancer. Trouvé en arrêt cardio-respiratoire par les pompiers qui n'arrivent pas à le réanimer. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années est décédé. C'est une immense tristesse, commente la mairie de Paris. Au sud-est de la capitale, à Maisons-Alfort, là aussi, trois courses étaient prévues, toutes interrompues pour cause de malaise en série. 16 au total, 6 légers et 10 cas graves sans pronostic vital engagé. 3 victimes également évacuées vers des hôpitaux en marge d'un 10 km en bord de mer à Menton. Une dizaine d'autres participants ont dû être pris en charge par les secouristes. Vigilance donc, exhorte le ministère des Sports qui appelle désormais les pratiquants, les encadrants et les organisateurs d'événements sportifs à faire preuve de la plus grande prudence.
Et alors ce matin, 13 départements de l'Ouest sont en vigilance jaune pour cette chaleur. Seulement jaune, car elle est établie sur des critères estivaux. Or, nous sommes en mai, il n'a jamais fait aussi chaud à cette époque de l'année. Le record de 2017 est égalé. Il sera battu dès aujourd'hui, nous dit Géraldine, ce matin, jusqu'à 36 degrés, donc attendu à La Rochelle et à Cognac. Les secours qui appellent à la prudence sur la côte atlantique après la mort de deux baigneurs emportés par les courants des Baïnes à Lacanau et à Lèche-Cap-Ferré, précisément en Gironde, et alors près de Melun, en région parisienne. C'est un jeune de 17 ans qui s'est noyé en se baignant dans la Seine.
Il est 6h32 sur RMC et la campagne pour la présidentielle s'est soudainement accélérée en ce week-end de la Pentecôte.
Avec l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui a officialisé sa candidature dans une mise en scène à la Jacques Chirac depuis l'Aveyron, en évoquant hier d'ailleurs sur le média Brut la possibilité d'organiser une primaire pour départager les candidats du centre et du centre droit. Tiens, commentaire dans la soirée, c'était sur BFM TV, de l'ancien Premier ministre lui aussi, Dominique de Villepin, pas candidat, pas déclaré, mais qui a des choses à dire sur la mise en scène chiracienne.
Il se trouve que j'ai bien connu Chirac et que je l'ai accompagné toute une partie de sa carrière. Oui. Et alors, s'il y a une chose dont je peux témoigner, c'est qu'il n'y a rien dans Gabriel Attal de Jacques Chirac. Jacques Chirac a toujours été Jacques Chirac. Gabriel Attal doit apprendre à devenir Gabriel Attal. À partir de ce moment-là, on pourra faire des comparaisons. Mais vous savez, le premier objectif d'un homme politique, c'est d'être lui-même. À partir de là, on peut se donner des exemples, on peut prendre des modèles, mais on doit s'affirmer en tant que tel.
C'est l'information de la soirée, une enquête ouverte à Rennes après la macabre, terrible découverte d'un adolescent de 12 ans retrouvé mort sur les rives de la Vilaine, donc à Rennes. Il avait une serviette de bain mouillée, nouée de façon très serrée autour de son cou. C'est un pêcheur qui a appelé les secours. Les pompiers n'ont pas pu le sauver, le réanimer. L'intervention d'un tiers fait partie des hypothèses. Ça, c'est ce que disait dans la soirée le procureur donc sur place à Rennes.
Il est 6h33 sur RMC et c'est la Ligue contre le cancer qui alerte ce matin sur le vapotage et les cigarettes électroniques dans les lieux publics.
Alors c'est déjà interdit de vapoter dans les lieux clos, à l'intérieur. Et donc la Ligue contre le cancer demande à les interdire sur les plages, dans les parcs, aux abords des écoles et dans tous les endroits où le tabac est interdit depuis bientôt un an. Un sondage a été réalisé par la Ligue contre le cancer. 7 Français sur 10 pensent pareil. La preuve ici, sur une plage à Marseille avec Anna Jojard et Thomas Douéreux pour RMC.
Quand elle se promène, Ludmila est parfois gênée par l'odeur des vapoteuse.
Les cigarettes électroniques, elles ont des odeurs spéciales et des fois c'est agréable, des fois pas forcément.
Cette jeune maman est favorable à son interdiction dans les espaces sans tabac, notamment pour éviter à son fils d'y être exposé.
Personne ne fume dans la famille et j'ai pas envie que ça soit exposé dans sa vie, quoi, à l'extérieur.
Un peu plus loin, en plein pique-nique, Ragit, non-fumeuse, estime que la vapoteuse est aussi toxique que la cigarette.
C'est pas un produit qu'on fume et qu'il n'y aura pas de conséquences plus tard. C'est sûr qu'il y aura des conséquences plus tard.
Sylvie, elle, n'est pas prête à éteindre sa cigarette électronique. Elle est même opposée à l'idée de l'interdire dans les espaces publics.
Il y a très peu de nicotine, il n'y a pas d'odeur. Là, on est sur la plage. Je pense pas que j'embête quelqu'un si je vapote.
Pour Alexandre Cobigot de la Ligue contre le cancer, il est indispensable de rendre les cigarettes électroniques moins présentes dans l'espace public.
Invisibiliser la vape tout autant que le tabac pour éviter que la nouvelle génération rentre dans une nouvelle addiction qui remplacerait le tabac.
Une interdiction qui existe déjà dans certaines villes, comme Strasbourg, qui a mis en place des espaces sans fumée.
Alors déjà, venez nous donner votre avis sur cette idée, ce projet de mesure, cette proposition de la Ligue contre le cancer. Vous nous appelez au 3216 et sur le WhatsApp 0612 424 424 et restez bien avec nous parce qu'à 7h10, l'invité de Mathieu Béliard dans Apolline Matin, ce sera Emmanuel Ricard, le directeur de la prévention à la Ligue contre le cancer.
Superbe communion hier après-midi à Bordeaux, parade dans la ville, réception à la mairie et le stade Chaban-Delmas plein pour le retour des rugbymen, vainqueur samedi de la Champions Cup de rugby pour la deuxième année d'affilée. Autre ville, autre sport et autre ambiance. Sachez que c'est samedi que Paris va disputer la finale de la Ligue des Champions, mais on sait déjà, selon les informations de RMC, qu'il n'y aura pas de parade sur les Champs-Élysées en cas de victoire. Et on reparle aussi de la Rix de jeudi dernier, près du canal Saint-Martin. À la veille, souvenez-vous, de la finale de Coupe de France. Lucas Laubert pour RMC. 15 personnes sont mises en examen.
Oui, des mises en examen pour violence volontaire et pour certains même violence volontaire aggravée, notamment par l'usage d'armes lors de la violente rixe entre plusieurs groupes supporters, notamment de l'OGC Nice, dans le 10e arrondissement de Paris vendredi soir. Ces 15 personnes suspectées d'y avoir participé ont été placées sous contrôle judiciaire strict, avec par exemple l'interdiction de quitter le territoire ou de se rendre dans une enceinte sportive. Sept autres suspects feront eux l'objet d'une comparution immédiate. Demain, 4 d'entre eux ont été placés en détention. Et enfin, 36 autres mises en cause dans cette rixe comparaîtront ultérieurement devant le tribunal correctionnel.
Première journée catastrophique, on peut le dire, pour les Français à Roland-Garros, que vous suivez, vous le savez, dès 11h sur RMC et notre radio digitale, RMC 100% terre battue. Sur les 12 qui étaient engagés hier, seulement 2 sont qualifiés, Alice et Royer. Il y en aura 9 en lice aujourd'hui, dont Gaël Monfils pour son dernier Roland-Garros à 39 ans. Et alors ce sera sous la chaleur, puisqu'on apprend à l'instant que la vigilance jaune, vigilance chaleur, est étendue à 18 départements, dont Paris et la Petite Couronne.
Le Quintet aussi sous la chaleur à Compiègne aujourd'hui.
Avec cet horaire inhabituel de 15h15, ces jours fériés, le 5, le 3, les pronostics de la Dream Team des courses RMC, le 5 en favori comme quoi, et le 3 en outsider, Pumalin Park.
Merci Quentin Vinet, c'était le journal de 6h30. On va tout de suite accueillir Camille au 3216. Camille qui nous appelle depuis la Vendée. Bonjour Camille.
Oui, bonjour.
Camille, vous êtes à Saint-Hilaire-de-Riez. Riez.
Riez.
Voilà. Une chance sur deux.
Une chance sur deux. Et il fait chaud à Saint-Hilaire-de-Riez.
Oui, là, il fait 21, ça n'a pas baissé du tout de la nuit.
Oui, ça a pas baissé du tout de la nuit. Vous avez eu du mal à dormir. Et alors, ce que je lis là, et vous allez nous le raconter, c'est que vous avez tenté quelque chose pour vous rafraîchir.
Oui, parce qu'en fait, de la journée, on a dans les environs de 35 degrés dans la journée, donc on bouge la nuit. Et oui, 1h30 du matin, quelque chose par là, on est allé mettre les pieds dans l'eau.
Ah, excellent!
Ouais, bah, elle était encore bonne, franchement, c'était impeccable. Le vent était chaud, enfin,
c'était
assez particulier.
Oui, 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 écoutez, nous on n'a pas cette chance. C'est vrai qu'on n'a pas tous l'océan à portée de, j'allais dire à portée de main, plutôt à portée de pied, du coup. Mais c'est quelque chose que vous aviez déjà fait aussitôt dans l'année ?
Ah non, jamais. Jamais. C'était la première fois. Ben là, des chaleurs comme ça, on en a très peu vécu. Et c'est vraiment très particulier. Enfin, on est en appartement et c'est franchement très compliqué.
Bon, vous allez faire ça la nuit prochaine, Camille ?
Peut-être, on
va. Vous me direz ça demain matin, on va reprendre de vos nouvelles. Vous n'hésitez pas, vous composez le 3216, le WhatsApp RMC aussi, au 0612 424 424 pour nous donner vos meilleures astuces pour lutter contre ces fortes chaleurs. Il est 6h39.
Et dans un instant, cette question, peut-on stopper l'immigration en France ? C'est Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui propose un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale. Le garde des Sceaux considère qu'il faut mettre fin à l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui.
Bonjour Jean-Christophe Dumont.
Bonjour.
Vous êtes économiste et chef de la division des migrations internationales à l'OCDE. Dans quelques minutes, vous nous détaillerez la situation et vous nous rappellerez surtout le cadre légal autour de cette question.
Et puis il y aura aussi la bande du Morning RMC au complet. Ils sont déjà là. Virginie Fulpin pour la causerie.
On en parlait dans le journal de Quentin. Le temps passe, c'est comme ça. Et Gaël Monfils dispute déjà le dernier Roland Garros de sa carrière.
Alors lui, peut-être qu'un jour il disputera le premier. Anthony Morel pour C'est déjà demain.
Petite canette les amis, un petit soda bien frais.
Pourquoi pas?
Sans glace ni frigo. Je vais vous expliquer comment c'est possible.
On verra ça. À tout de suite.
Jusqu'à 7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h42 sur RMC et RMC Story. Gérald Darmanin durcit le ton sur l'immigration. Dans une interview au JDD hier, le garde des Sceaux estime que le pays est arrivé à la limite de ses capacités d'intégration et d'assimilation. Fin de citation. Il propose un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale. En d'autres termes, la suspendre pendant 3 ans.
Bonjour Jean-Christophe Dumont.
Bonjour.
Vous êtes économiste et chef de la division des migrations internationales à l'OCDE. Alors avec vous, on ne va pas faire de politique, on va faire un point sur la situation, un point avec les chiffres. Est-ce qu'on peut dire que l'immigration est hors de contrôle? Quelles sont les données sur ce sujet?
Alors c'est vrai que l'immigration en France a augmenté. C'est environ, d'après les chiffres de l'OCDE, qui n'inclut pas les étudiants, mais inclut les ressortissants européens qui ont également le droit de venir s'installer en France. On était en 2024 autour de 300 000 personnes. C'est relativement stable depuis environ 3-4 ans. Mais c'est vrai qu'en 2017, on était à 266 000, donc une légère augmentation de l'immigration en France, qui reste, cela dit, en pourcentage de la population française, à peu près 2 fois inférieure à ce qu'elle est pour la moyenne des pays de l'OCDE.
Quand Gérald Darmanin propose une réforme constitutionnelle pour faire évoluer les quotas, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de quotas migratoires en l'état actuel des choses?
Alors, c'est pas qu'on pourrait pas. En tout cas, il y en a pas. Il n'y a pas de quotas. Donc, faire évoluer les quotas, c'est une façon de poser la question qui est un petit peu étonnante. Mais effectivement, beaucoup des changements qui, disons, seraient nécessaires pour une réduction très forte de l'immigration passent par la case constitutionnelle, mais pas que en réalité, parce que le droit européen encadre beaucoup de ces éléments de l'immigration, notamment l'immigration familiale.
Oui, justement, il faut le rappeler aussi, Jean-Christophe Dumont, on a, nous, la France, des obligations à l'échelle internationale, notamment sur l'accueil des réfugiés, c'est ça?
Alors sur tout un tas de domaines, d'abord la France a signé des accords bilatéraux avec un certain nombre d'États étrangers. Il y a 16 accords de gestion concertée qui avaient été signés sous la présidence de Monsieur Sarkozy, qui sont toujours en vigueur. Il y a d'autres accords qui concernent évidemment le cas de l'Algérie ou pour les jeunes, les accords de mobilité avec la Tunisie et d'autres pays. Donc il y a toute une série d'accords bilatéraux qui ont été signés, qui permettent sous certaines conditions à des ressortissants étrangers de solliciter des titres de séjour. Il y a le droit européen qui concerne par exemple l'immigration familiale, mais d'autres titres également, l'immigration hautement qualifiée, les saisonniers. Et puis il y a évidemment la Convention de Genève en ce qui concerne les réfugiés qui autorise les gens à déposer une demande d'asile en France et à avoir leur dossier examiné sur une base individuelle.
Jean-Christophe Dumont, vous parliez des saisonniers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre en France de se passer de l'immigration légale et de la geler pendant 3 ans?
En réalité, il y a un bon exemple qui est celui du Covid, où toutes les frontières étaient fermées. Effectivement, disons, les possibilités de mobilité étaient extrêmement réduites. Et en réalité, pendant cette période, on a continué à faire venir notamment des gens pour nous aider à l'hôpital. On a assoupli les règles de reconnaissance des qualifications de ceux qui étaient déjà sur le territoire français. Et puis surtout, pour les travailleurs saisonniers qui n'étaient pas sur le territoire, aux États-Unis, c'était le premier mandat de Trump, en Allemagne ou en France, il a fallu faire venir en urgence des gens de pays étrangers, pour la France, notamment du Maroc et de la Tunisie, pour sauver la Clémentine Corse. En Allemagne, des pays des Balkans, d'Europe de l'Est, pour sauver l'asperge. Donc, et aux États-Unis, effectivement, en 2020, on n'a jamais eu autant de travailleurs saisonniers en dépit du Covid.
Merci Jean-Christophe Dumont, économiste et chef de la division des migrations internationales à l'OCDE. Merci d'être venu sur RMC pour faire le point en chiffres sur cette proposition. Il est 6h47 sur RMC. On retrouve la bande du morning dans quelques secondes. Mais d'abord, Élise, tu nous rappelles les 3 grands titres de l'actu ce matin.
Et évidemment, cet épisode de chaleur précoce est remarquable. Ce sont les mots de Météo France, le pays qui est sous un dôme de chaleur, avec l'Ouest particulièrement touché et désormais 18 départements placé en vigilance jaune canicule. La sidération et le mystère à Rennes. Un garçon de 12 ans a été retrouvé mort au bord d'un fleuve, une serviette de bain mouillé serrée autour de son cou. Une enquête a été ouverte pour meurtre. Et puis, pas de parade pour les joueurs du PSG en cas de sacre samedi en Ligue des Champions. Pas de parade sur les Champs-Élysées. La piste d'une célébration, en revanche, sur le Champ de Mars face à la Tour Eiffel est envisagée selon les informations d'RMC.
Il est 6h48 sur RMC. Et c'est l'heure de la bande du morning qui est réunie avec Anthony Morel à ma droite. On va boire un coup avec toi dans quelques instants. Mais d'abord, je me tourne vers toi, Virginie, la causerie et donc Gaël Monfils. Gaël Monfils qui entame ce soir le dernier Roland-Garros de sa carrière. Il sera opposé au premier tour à un autre Français, c'est Hugo Gaston.
Et ce match ne pouvait pas avoir lieu à un autre moment qu'en session de nuit. C'est comme ça qu'on dit au revoir à un showman comme Gaël Monfils. Chaque match peut être le dernier pour lui, alors on prévoit dès le premier tour de mettre les petits plats dans les grands. Il y a déjà eu la fête avec ses amis sur le cours Philippe Chatry en fin de semaine dernière, puis l'entraînement de Gaël Monfils hier qui a attiré plus de monde que certains matchs. Et ce soir, il passe aux choses sérieuses parce que c'est pas que de la fête, des au revoir aux yeux humides et des séances d'autographes et de selfies. Plus pour longtemps, mais Gaël Monfils est encore un joueur de tennis. Et même à l'approche de ses 40 ans, on peut compter sur lui pour vendre cher sa peau sur le court, histoire de prolonger un petit peu le bonheur d'être là.
Un bonheur partagé par le public. Hein.
Bah, Gaël Monfils, il a toujours beaucoup donné sur le court. Et le public, ça, le ressent. Des grandes cavalcades, des coups venus d'ailleurs, des petits pas de danse, un sourire éclatant, le don de transcender les foules. Et cette capacité à toujours être le meilleur dans ce tournoi de Roland-Garros dont il a fait sa priorité depuis le début de sa carrière. Vous allez me dire que c'est la même chose pour tous les Français. Oui, d'accord, sauf qu'il y en a qui se retrouvent surtout intimidés par l'événement. Lui, c'est le contraire. Plus il y a de monde, plus il y a de bruit, plus le public l'attend, plus il répond présent.
Et surtout que Gaël Monfils, il a obtenu les meilleurs résultats de sa carrière à Roland-Garros.
Ouais, parce qu'en fait, on dit toujours que c'est un showman, etc. Mais il faut pas oublier les résultats quand même. Gaël Monfils, il a participé 18 fois à Roland-Garros. 40 victoires pour 17 défaites, c'est plus qu'honorable. 4 fois, il a atteint les quarts de finale. Une fois, il est même allé jusqu'en demi-finale. C'était en 2008, il n'avait que 21 ans à l'époque. Il avait perdu en 4-7 contre un certain Roger Federer. Ça prouve bien que c'est là qu'il peut se transcender. Je voudrais pas décourager Hugo Gaston avant de jouer ce soir, mais Gaël Monfils a joué 7 fois contre des Français à Roland-Garros. Il n'a jamais perdu.
Ah,
on va donc voir ce soir sur RMC et puis sur la radio digitale RMC 100% terre battue. Elle a été lancée hier au début du tournoi et c'est jusqu'à la fin.
Oui, les premières balles dès 11h et les dernières jusqu'au bout de la nuit avec cette night session de Gaël Monfils. Gaël Monfils, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait l'unanimité même chez les joueurs. Tout le monde salue son esprit, son côté showman. Pas forcément de résultats. On sait que les champions, ils respectent le palmarès aussi. Mais là, les champions, ils respectent aussi le côté showman de Gaël. Ah
bah, il l'adorait, quoi. Oui, je pense que ça va être une perte, effectivement, pour le circuit.
Et donc, il ne faut rien rater des matchs de Gaël Monfils. Et donc, dès le premier, ce soir.
Il est 6h50 et c'est l'heure de C'est déjà demain avec Anthony. Alors, on s'apprête à connaître une semaine particulièrement chaude. Elle a même déjà commencé. Et vous allez nous aider ce matin, Anthony, à nous rafraîchir un peu grâce à une innovation géniale qui va bientôt sortir. Une canette qui se rafraîchit toute seule quand on appuie sur le bouton.
Innovation extraordinaire.
Ouais, génial. Parce pour la plage.
Mais pour la plage, pour les randos, quand vous avez le soda qui était au fond du sac pendant toute la journée et forcément il est plus très frais. Ou même quand on rentre à la maison, on rêve d'une boisson fraîche. On a oublié de les mettre au frigo, c'est quand même dommage. Et donc là, le principe de cette innovation, c'est une canette. Vous appuyez sur un bouton, il y a un bouton on-off comme sur les appareils électroniques. Et en quelques secondes, en une ou deux minutes, eh bien, elle va passer de la température ambiante à 6 à 7 degrés, c'est-à-dire la température idéale de dégustation pour une boisson fraîche. Alors comment c'est possible ? Eh ben en fait, à l'intérieur de cette canette, il y a une réaction chimique qui va se produire. Alors moi, j'ai un peu oublié le programme de physique chimie du collège, je vous avoue, mais c'est ce qu'on appelle une réaction endothermique, c'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de la canette, vous avez de l'eau dans la base de la canette qui va se mélanger à un composé salin qui est contenu dans les parois. Tout ça ne touche absolument pas la boisson, évidemment, mais ça va en gros aspirer la chaleur et ça va générer une fraîcheur très rapidement en l'espace, encore une fois, de 2 minutes max. Et vous vous retrouvez avec une boisson eh bien, qui est prête à déguster. Et vous avez même un petit autocollant. Alors, c'est comme un petit flocon de neige, vous savez, et qui va se colorer en bleu. Ça veut dire que la température est bonne et que vous pouvez ouvrir la canette et en profiter à fond.
Et ça sort cet été ? On peut déjà l'acheter ?
Alors, malheureusement, non, pas encore. C'est pour ça je vous donne un peu un faux espoir. Là, ça va bientôt arriver. C'est-à-dire qu'ils ont sorti des prototypes. Ils sont en discussion avec des grandes marques, donc Coca, Red Bull. Donc, on peut imaginer que ça va être industriel radicaliser assez rapidement, mais on n'y est pas encore. Alors, il y a encore des petits défauts à régler, d'abord parce que ça va coûter assez cher, en tout cas plus cher qu'une canette normale. Bah oui, il y a de la technologie à l'intérieur. Il y a aussi le fait que c'est un peu encombrant parce que toute la technologie, là, la réaction endothermique dont je vous parlais, ça prend un petit peu de place. Donc il y a un double fond en fait. Donc c'est une canette de 50 centilitres, mais vous avez que 33 centilitres à boire à l'intérieur. En revanche, l'intérêt, y compris l'intérêt écologique environnemental, est extrêmement intéressant puisqu'il y a plus du tout besoin d'électricité. Et donc on parlait effectivement à la plage. Moi je pensais aussi au festival. Pour le coup, ouais, vous n'avez pas forcément un accès à l'électricité. Et là, vous pourriez avoir des boissons fraîches à volonté.
Ça marche pour les humains ? On peut pas faire une canette auto-rafraîchissante.
Avec un bouton, vous appuyez autour des listes d'argent.
J'aurais bien besoin d'une canette rafraîchissante, là.
Ça marche qu'une fois, du coup, on appuie sur le bouton, et après, c'est fini.
Oui, après, c'est pas réutilisable. Elles sont recyclables, les canettes,
bien,
quand même.
Ça va.
Voilà.
C'est
déjà pas réutilisable.
On va demander à Christian s'il aurait bien besoin d'une de ces canettes. Il nous appelle de Toulon. Bonjour, Christian.
Bonjour, tout le monde. Bonjour.
Il fait déjà chaud, j'imagine, ce matin à Toulon, Christian.
Oh ben dehors, tout à l'heure j'avais 20 degrés, maintenant ça a dû monter un petit peu. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai mis le ventilo à fond, disons. Voilà.
Ah bah oui, oui. Alors on n'entend pas le ventilo, mais oui, on vous entend un peu de loin.
Bon, ben, ah oui.
Comment était la nuit, Christian? Comment vous avez fait pour essayer de vous rafraîchir un peu?
La nuit, ça va, écoutez, on s'habitue. Je veux dire, quand on est dans le sud, ça fait quelques années, moi ça fait 16 ans que je suis à Toulon. Donc je m'habitue, c'est vrai qu'il fait à l'intérieur... Je regardais ce matin, il fait 25. Mais voilà, on s'habitue à tout ça. De toute façon, moi, je n'ai pas de clim, de quoi que ce soit, parce que je déteste ça. Mais juste les ventilos, et puis un ventilo à vitesse réduite. Et puis, tout va bien. Voilà.
On s'habitue, mais un 25 mai, c'est un peu tôt quand même, non?
À 25 mai, oui, bah oui, mais bon, c'est pas de ma faute. Hein, si le réchauffement climatique, c'est pas dû à moi seulement. Hein, merci. Non, mais bon, on s'habitue. On a de la chance, je trouve, à Toulon. On n'a pas eu cet après-midi. On devrait avoir dans les 29, je crois, d'après ce que j'ai vu. Et puis, je trouve que c'est bien.
Oui, c'est pas le pire près de la Méditerranée. Hein. Ça va, près de la Méditerranée, c'est température quand même un peu plus classique. Hein.
Mais on dit souvent qu'il y a de l'air en plus.
Oui, tout à fait. On a la mer. J'ai la mer à 30 minutes, donc ça va à pied. Donc tout va bien. Voilà.
Bon, bah, merci Christian, souhaitez bon courage pour la journée, restez près du ventilateur. Hein.
Oui, bah, c'est ce que je fais, j'ai baissé les rideaux, etc. J'ai mis les parasols en place et tout va bien. Voilà. Bon, bah,
vous avez entendu évidemment le conseil qu'on a rabâché toute la matinée, évidemment pensez à vous hydrater, même sans canette connectée. Vous hydratez, la bonne bouteille d'eau au frais. Il s'est hydraté ou pas Mathieu Béliard?
Non, mais je remercie Élise Dangean chaleureusement pour ce message envoyé à 4h59, je compte sur toi pour faire monter la clim en studio. Bah, merci beaucoup,
c'est
il
bon,
fait frais ici.
Il fait frais, voilà.
Comment ça va le morning? Vous avez bien dormi déjà ou pas?
Très peu.
C'est un peu dur. Facile, hein, c'est des petits moments où on est quand même content de travailler la nuit dans la clim au boulot. On verra pour la sieste cet après-midi. Vous, je vous pose la question au 32-16, est-ce que vous avez bien dormi? Et surtout, comment est-ce que vous faites pour contrer ce coup de chaud qui s'abat sur tout le pays? Tiens, partagez vos petits trucs, votre week-end prolongé en vigilance calicule dès le mois de mai. Clément vous attend au 32-16, vous écrivez sur le WhatsApp RMC au 06-12-424-424.
5-7, le Morning RMC.